Bonsoir, bonsoir à tous. J'aimerais, avant que nous ouvrions nos Bibles, faire quelques remarques préalables concernant la manière dont nous allons aborder ce thème. Vous le savez, c'est un thème important, d'une redoutable importance, même aujourd'hui. Et ma première remarque sera pour dire que, bien entendu, ce que nous allons partager s'appuie sur les 9 études consacrées au mariage et à l'harmonie conjugale données ici en 1998 et 1999. Nous ne devons pas dissocier les grandes affirmations de ces 9 études précédentes de ce que nous allons partager. Et c'est pourquoi nous allons, en particulier durant ce week-end, nous référer à certaines de ces grandes affirmations. Deuxième remarque, vous le supposez comme moi, le sujet est vaste. Et c'est pourquoi une deuxième partie est prévue les 16 et 17 juin. Nous aurions bien aimé le faire de manière plus rapprochée dans le temps, mais nos programmes ne le permettent pas, donc nous devons avoir beaucoup de patience, d'autant plus qu'il n'est pas du tout certain qu'une troisième série d'études ne soit pas nécessaire. Ça nous donnerait une sorte d'égalité de poids entre les 9 études sur l'harmonie conjugale et éventuellement donc 9 études sur l'éducation des enfants. Mais nous n'en sommes pas encore là. Troisième remarque, nous devons d'abord poser quelques principes fondamentaux. Je sais que certains d'entre nous brûlent certainement d'arriver au plus vite à l'heure des questions très très pratiques. C'est un désir légitime. Mais je ne crois pas sage de construire cette maison que représente notre enseignement sur l'éducation des enfants sans poser d'abord un solide fondement. C'est vrai qu'on aime construire très vite aujourd'hui, mais ce n'est pas toujours très solide à la base. Alors ne vous étonnez pas si, durant ce week-end en particulier, nous donnons beaucoup de place à certains principes fondamentaux concernant l'éducation des enfants, principes rendus d'autant plus nécessaires par le désordre des pensées, par le désordre des comportements qui non seulement affectent et infectent le monde, la société à laquelle nous appartenons, mais disons-le, reconnaissons-le, et cela nous humilie, qui affecte et infecte de plus en plus l'Église de Jésus-Christ. Nous devons absolument toucher aux raisons, ou à certaines des raisons fondamentales qui ont conduit à ce que j'appellerais, et je ne crois pas exagérer, le chaos actuel dans le domaine de la famille et dans le domaine de l'éducation des enfants. Donc, contenons notre impatience, considérons que les fondations que nous allons poser durant ce week-end sont très importantes. Elles ne nous empêcheront pas ici et là de toucher à des questions pratiques, mais il importe que nous développions tout d'abord une vision qui soit cohérente sur les raisons de la situation actuelle et aussi les problèmes qui nous affectent en relation avec l'éducation des enfants. Et puis, je terminerai par un petit faisceau de remarques beaucoup plus personnelles. Je suis heureux d'être aussi un papa, un père et un époux qui s'adresse à vous. Et c'est-à-dire non un théoricien qui se bornerait à vous présenter des théories plus ou moins abstraites ou simplement puisées dans les livres. Non, c'est simplement un homme, un père, un mari qui a derrière lui une bonne trentaine d'années de mariage, 4 enfants qui ont grandi, que vous connaissez plus ou moins en fonction de leur âge, puisque l'aîné a relativement peu connu cette église, ayant 28 ans maintenant et étant loin depuis déjà un certain nombre d'années. Et cela signifie bien entendu aussi, et je prends mes précautions, que je n'ai absolument pas la prétention, en donnant cet enseignement, pas plus d'ailleurs qu'en en ayant partagé bien d'autres au fil des années ici avec vous, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai été un père parfait. J'en suis loin. Nous avons trouvé, mon épouse et moi, la tâche d'éducateur et de parent difficile. Surtout que, jusqu'à un certain point, même avec la meilleure formation de base avant le mariage, il faut reconnaître que nous apprenons dans ce domaine beaucoup de choses sur le tas. Au fil de l'expérience, et bien entendu, jusqu'à un certain point, nos enfants, en particulier les aînés, essuient les plâtres de nos apprentissages. Et il est bien évident aussi que nous nous disons toujours que si nous avions à recommencer, dans certains domaines, nous ferions différemment. Mais ça, c'est toujours plus facile à dire après. D'autant plus que si nous avions à recommencer, nous ferions d'autres bêtises. Donc, ceci est aussi simplement dit par souci de relativiser certaines choses. Nous avons en notre Dieu un merveilleux éducateur, un père plein de patience, un réparateur de nos erreurs, un grand pardonneur, pardon de le dire ainsi, lorsque nous plaidons coupables et que nous avons soif d'apprendre et de corriger au fur et à mesure de l'exercice de nos responsabilités d'éducateur. Il fallait là aussi le dire. Mais j'aimerais, dans ces remarques plus personnelles, ajouter que, au-delà de ma vocation de père et d'époux, j'ai une autre vocation qui a fait de moi ce que je suis, serviteur de Dieu mis à part, pour exercer le service de l'enseignement et du conseil. Et c'est aussi avec cette vocation en particulier que je partage avec vous, au-delà de nos expériences familiales et d'éducateurs, essentiellement le message de la parole de Dieu. Et en disant cela, je pense aux années de service et à mes nombreux séjours, un petit peu partout, qui m'ont conduit à habiter chez des croyants, dans des familles, pour quelques jours, un week-end, parfois plus. Et je dois dire que j'ai aussi beaucoup appris au fil des années en étant l'invité de nombreuses familles d'accueil, dont pas mal avaient des enfants. Et ça n'a pas toujours été facile non plus. Je pensais, en évoquant, en préparant cette soirée, ce week-end, à l'un de mes derniers voyages, je ne vous dirai pas lequel, pour que vous ne puissiez pas essayer d'identifier quiconque, de toute façon ce n'est pas dans la région, mais ce voyage m'a conduit tout d'abord à habiter dans une famille que j'ai quittée avec joie, pardon de le dire ainsi, tout simplement parce que l'épreuve était dure à vivre par rapport aux relations qui existaient entre les parents et les enfants et la manière dont les enfants étaient éduqués. J'ai poussé un ouf de soulagement lorsque j'ai franchi la porte d'entrée dans le sens de la sortie avec ma valise. Ensuite, de là, je suis passé pour la suite de mon séjour dans un second foyer dans lequel il y avait une grande famille avec 8 enfants, et je dois dire que là j'aurais aimé y habiter pendant quelques semaines, parce que c'était remarquable, bienfaisant, encourageant. Et j'ai su ensuite, par le témoignage des croyants, des églises environnantes, que effectivement ce n'était pas simplement du tape à l'œil, mais qu'il y avait une vie familiale et conjugale de qualité, avec un souci d'honorer le Seigneur. Et de là, je suis passé dans une troisième famille, en réalité un couple sans enfants et qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Et j'ai aussi été édifié par la beauté de l'engagement de ce couple qui ne se morfondait pas de douleur par le fait, et c'est vrai qu'il peut être très douloureux de ne pas pouvoir avoir d'enfants, mais qui avaient su consacrer leur vie, leurs énergies, leurs dons de manière absolument remarquable au service de Dieu, pour éviter de se focaliser sur ce qui pouvait apparaître comme une privation regrettable et injuste. Voilà, simplement, dit brièvement, le contenu de l'un de mes derniers voyages, et il est vrai que l'on apprend beaucoup en voyageant de cette manière. Faut-il simplement ajouter que, tout en ayant le souci de ne pas blesser qui que ce soit de manière injuste par des déclarations qui pourraient être imprudentes, par des généralisations qui pourraient être excessives sur un sujet aussi délicat que l'éducation des enfants. Et je sais combien je dois me garder à droite et à gauche de gouffres vertigineux dans ce domaine. On peut faire beaucoup de peine à affirmer très fort et très haut et de manière très tranchante des vérités abruptes qui font mal, parce qu'on ne s'identifie pas suffisamment à la souffrance de ceux qui nous entourent et qui connaissent des situations parfois très difficiles. Donc, d'un côté, c'est ma préoccupation de ne pas heurter injustement, brutalement, et d'apporter simplement des choses sans nuance. Mais de l'autre, j'ajouterai quand même que je n'ai pas de cote de popularité à soigner. Et que mon premier souci dans ce que nous allons partager est un souci de fidélité à la parole de Dieu, que l'enseignement partagé apparaisse dans certains domaines conservateurs, dans d'autres progressistes, cela m'importe peu. L'essentiel, c'est ce que Dieu dit, et ce que Dieu dit est le meilleur pour l'homme en tout temps, à toute époque, sous toute latitude. Voilà donc quelques remarques qui me semblaient nécessaires en préalable à tout ce que nous allons partager. Nous allons donc ouvrir notre Bible dans le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel pour en lire le premier chapitre. Donc premier livre de Samuel dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament. Premier livre de Samuel, nous en lirons les 28 versets, puisque ces 28 versets tournent autour d'un seul grand sujet, directement en rapport avec le nôtre. Et je lis donc au verset premier de ce chapitre premier du premier livre de Samuel. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Yéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Péninna. Péninna avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, une trentaine de kilomètres au nord de Jérusalem, pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Péninna, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Péninna la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle. Elle prit 3 taureaux, 1 épha de farine, 1 outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux, ils conduisirent l'enfant à Élie. Et Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Au chapitre 2, donc au chapitre suivant, simplement, les versets 11 et 12, Elkana s'en alla dans sa maison, à Rama, et l'enfant, donc Samuel, fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des Voriens. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Nous avons fait tout à l'heure quelques remarques préalables. Maintenant, dans cette introduction directe à notre thème, nous devons aussi faire quelques remarques importantes d'ordre général. La première sera pour souligner ce que chacun d'entre nous sait, à moins que quelqu'un ne vienne tout droit de la Lune, mais nous savons que notre monde est secoué par une crise profonde au niveau de ce que je pourrais appeler ces anciennes valeurs sûres. Le travail, tout ce qu'on appelle vie professionnelle et la philosophie du travail qui a énormément évolué sur très peu d'années. Et la famille. Et en fait, c'est par la famille qu'il faut commencer. Et j'aimerais ici simplement vous rapporter l'aboutissement des recherches d'un sociologue et historien qui a publié en 1947 un livre intitulé « Famille et civilisation » et qui, dans ce livre, établissait une sorte de parallèle entre la désintégration, la décomposition de diverses cultures, de sociétés, et le déclin de la vie de famille dans ces sociétés. Et il a pu mettre en évidence, constater, 8 formes bien spécifiques, bien précises, de comportement familial, domestique, qui allait dans le sens de cette spirale descendante de chacune de ces cultures en cours de décomposition. Voilà donc ces 8 comportements familiaux appartenant à la décadence de ces sociétés étudiées. Premièrement, le mariage perd son caractère sacré. Il est fréquemment brisé par le divorce. Deuxièmement, la signification traditionnelle de la cérémonie du mariage se perd. Troisièmement, on assiste au développement d'une abondance de mouvements féministes. Quatrièmement, le manque de respect envers les parents et l'autorité en général grandit, s'accroît. Cinquièmement, on assiste à une augmentation de la délinquance juvénile, de la promiscuité et de la rébellion. Sixièmement, les couples mariés refusent d'accepter les responsabilités familiales. Septièmement, l'adultère va croissant et est de plus en plus toléré. Et enfin, huitièmement, il y a dans ces sociétés en décomposition un intérêt accru pour les perversions sexuelles et le développement d'une criminalité liée à la sexualité. Je rappelle que l'ouvrage de ce sociologue et historien a été publié en 1947. Quelques décennies ont passé et nous constatons dans nos sociétés, dans notre société, combien ces 8 points de repère sont exacts. Autre exemple, je le tire de la revue bien connue Time Magazine de 1992, automne 92. Il s'agit de pronostics au pluriel sur l'état de notre civilisation au début du prochain millénaire. Nous y sommes. Donc cela a été publié dans un numéro spécial de ce magazine. Voilà donc en quelque sorte un modèle, pardon de le dire ainsi, mais il est un peu présenté de cette manière, de société idéale proposée par ce célèbre journal américain. Sorte de projet de société. Premièrement, la famille telle que nous l'avons connue va bientôt mourir. Ce n'est qu'une anomalie intéressante, une excentricité de l'histoire. Nous imaginions que ce modèle traditionnel représentait la norme, mais nous nous sommes trompés. Dans les jours qui viennent, même l'expression famille nucléaire sera désuète. Famille nucléaire, c'est la famille de base qui est constituée par ce noyau composé d'un père, d'une mère et au minimum d'un enfant. Deuxièmement, ce qui remplacera l'ancienne famille sera un système de mariage multiple ou ce que l'on appellera la monogamie en série. Le divorce deviendra si courant qu'il sera considéré comme parfaitement normal. Certains contrats de mariage seront accompagnés d'une clause d'extinction qui les rendront automatiquement caduques à partir d'un certain âge. Les couples qui parviendront à leur 50e anniversaire de mariage seront des êtres aussi exceptionnels que des virtuoses du piano, du violoncelle. Ils seront eux aussi des maîtres particulièrement doués dans leur art. Troisièmement, de nombreuses femmes vivront avec d'autres femmes, comme ce que nous voyons dans certains films télévisés qui mettent en scène des couples de lesbiennes. Quatrièmement, les enfants vivront avec une variété troublante de parents. Pères et mères, multiples beaux-parents, demi-frères, demi-sœurs, grands-parents, demi-grands-parents, etc. Cinquièmement, le tabou ancestral contre l'inceste faiblira, car la famille brisée comportera des parents, des non-parents et des anciens parents. Cette confusion dans les relations de sang détruira l'interdiction maintenant dépassée des rapports sexuels entre les membres d'une même famille. Sixièmement, il y aura toujours davantage de personnes âgées et toujours moins d'enfants. La tendance actuelle à ne pas vouloir d'enfants s'accentuera. Septièmement, les abus de toutes sortes perpétrés contre les enfants deviendront chose courante et une banalité. Ces enfants seront constamment projetés d'une famille à l'autre à mesure qu'elles se disloquent et se reconstituent. Beaucoup de ces enfants n'auront plus personne qui se sentira la responsabilité de s'occuper d'eux. Seront, garçons et filles, livrés à la rue, comme dans la Londres de Charles Dickens ou dans les grandes villes du Brésil d'aujourd'hui. Huitièmement, les pédiatres introduiront les enfants à l'usage des préservatifs au moment de leur première vaccination contre les maladies. Neuvièmement, tant la théologie, l'étude du caractère de Dieu que l'étude de la Bible disparaîtront. Les élèves de demain n'auront en conséquence aucune connaissance des questions spirituelles et ne manifesteront pas le moindre intérêt dans ce domaine. Dixièmement, et là je cite le Time, le triomphe de la féminisation de la religion incitera beaucoup de juifs et de chrétiens à ne plus parler de Dieu en termes personnels. Il ne sera plus question d'un Seigneur ou de Dieu le Père. Ceci favorisera le développement de groupes informels qui adoreront une force naturelle mystérieuse et qui chercheront leur propre divinisation. Onzièmement, toutes les nations ayant un développement démographique trop rapide seront contraintes à pratiquer l'avortement obligatoire, comme cela se fait actuellement en Chine. Patricia Schroeder, représentante démocrate au Congrès pour l'État du Colorado, formula cet idéal avorteur comme suit. Le but le plus important à atteindre au XXIe siècle sera le planning familial pour tous. Enfin, dernier point, quel sera donc le but final? Et je cite le journal, « Une approche plus radicale encore pourrait bien se développer. Il est raisonnable de se demander aujourd'hui si la famille elle-même pourra persister. » Étant donné la tendance au divorce, le nombre croissant d'adultes qui choisissent de rester célibataires, le désir décroissant d'avoir des enfants et la diminution du temps que les familles passent ensemble, une autre voie pourrait se développer. Il serait peut-être plus rapide et plus efficace de se passer carrément de la reproduction des enfants dans la cellule familiale. La société pourrait alors produire les générations futures dans des institutions ressemblant fort à des batteries d'enfants dirigées par l'État. Voilà un tableau. Je ne voudrais pas qu'il nous conduise à la dépression, mais je pense que ça vous fait aussi froid dans le dos. J'ai relevé cette citation d'un roman publié par un Russe en 1987 et qui fait allusion à la maison traditionnelle en bois de conifères, l'izba, en Russie du Nord. Donc l'izba paysanne, la maison, est comme un navire sous-marin. Elle se suffit éternellement à elle-même. Elle a toujours sauvé la Russie. Pour détruire une nation, il n'est pas nécessaire de l'ensevelir sous les bombes. Il suffit de dresser les enfants contre les parents et d'opposer les femmes aux hommes. Et c'est Abraham Lincoln qui aimait dire que la force d'une nation réside dans la famille. Et bien sûr, immédiatement, quand nous évoquons ces choses, se pose le problème de l'autorité des parents sur les enfants. Dans le cadre de cette question très très générale de l'autorité qui, vous savez, est remise en question dans absolument tous les domaines actuellement. Et il y a une forte influence de courants philosophiques, de courants idéologiques, se traduisant en pression plus ou moins forte sur les parents, comme sur leurs enfants. Et nous aurons à évoquer, sans nous y attarder, mais il me semble que c'est aussi nécessaire, l'influence d'un certain nombre de philosophes, de penseurs, de psychanalystes, et je pense au fondateur d'ailleurs de la psychanalyse, Freud, qui est certainement le personnage dont la pensée marque le plus notre société actuelle, en particulier au niveau de l'éducation des enfants. Nous évoquerons donc ces personnages un peu plus loin, parce que même dans l'Église de Jésus-Christ, il y a une influence de leur manière de penser, tout simplement parce qu'elle pénètre absolument, elle imprègne toute la société qui nous environne. Vous l'avez remarqué certainement, l'éducation des enfants semble échapper de plus en plus aux parents, sous les coups de boutoir de certaines idéologies plus ou moins dominantes. On nous dit que l'éducation des enfants ne doit plus être l'affaire des parents. Il y a d'ailleurs une quantité d'ambiguïté à cet égard, puisque d'une part, les parents sont accusés de ne pas remplir leurs responsabilités, leur rôle, mais au même moment, on promulgue des lois qui privent les parents de leur autorité. Et nous avons vu successivement plusieurs décisions être prises dans ce sens par l'Assemblée nationale, qui affaiblit l'autorité des parents, par exemple, sur les enfants mineurs, alors qu'au même moment, face à la délinquance et l'insécurité, le reproche était fortement adressé à ces mêmes parents de ne pas exercer leur autorité sur les enfants. Il y a donc là des contradictions et une incohérence extrêmement problématique qui montre que finalement, il n'y a pas de vraie philosophie solide, objective, extérieure, de fond, qui guide ceux qui nous gouvernent. J'ai sous les yeux une citation qui remonte à 1970 et qui émane d'un auteur allemand. Il écrit ceci: « Les enfants ne sont pas la propriété des parents, comme on le suppose trop souvent naïvement. C'est pourquoi le soi-disant droit des parents a besoin d'un contrôle social efficace. Car les groupes sociaux ont finalement pour remplir leur rôle. » J'ai là aussi relevé, c'est intéressant et profondément inquiétant, des décisions internationales très contraignantes qui ont été prises par l'ONU en 1991, concernant les relations entre les parents et les enfants. Et j'ai sous les yeux des extraits de cette déclaration que je vous livre. Il y a là quelques articles très intéressants. Article 2 de cette déclaration, qui date donc de 1991, il n'est pas permis aux parents de punir un enfant pour des actes ou des paroles qui, d'une quelconque manière, sont en contradiction avec la foi ou la position morale des parents. Article 6, le gouvernement seul, et non les parents, a le droit de décider ce qu'il y a de meilleur pour l'enfant. Article 13, il n'est pas permis aux parents d'imposer de quelconque restriction à l'enfant dans ce qu'il voit, entend, expérimente ou dans ce qui lui est enseigné. Article 14, il n'est pas permis aux parents d'influencer l'enfant d'une manière quelconque quant à ses positions religieuses et morales. Article 15, il n'est pas permis aux parents d'influencer ou de limiter le choix de l'enfant relativement à ses amis, à ses camarades. Article 24, il n'est pas permis aux parents de déterminer le traitement médical de leur enfant ou de le rejeter. En fait, nous avons eu déjà avant la guerre, la dernière guerre, une démonstration tout à fait visible et impressionnante de cette mentalité à partir de l'avènement de Hitler, qui, dans son livre Mein Kampf, évoque l'importance de gagner les jeunes et de les former au service d'un nouvel État national. Et il écrit ceci: quand un adversaire me dit « Je ne passerai pas dans votre camp », je lui réponds calmement « Votre enfant nous appartient déjà. Vous, qu'est-ce que vous êtes ? Vous ne serez pas toujours là. Mais vos descendants sont maintenant dans le camp nouveau. D'ici peu de temps, ils ne connaîtront rien d'autre que cette communauté nouvelle. » Le 1er mai 1937, Hitler déclarait « Notre nouveau Reich ne donnera sa jeunesse à personne. Il prendra la jeunesse lui-même et lui donnera son propre enseignement et son éducation. » Et nous savons que ce n'était pas pure vantardise, puisque c'était exactement ce qui se passait. Les écoles allemandes furent rapidement nazifiées. Des petites classes à l'université, les livres de classe furent refaits, les programmes furent modifiés. Et nous savons où tout cela a finalement abouti. Nous avons évoqué tout à l'heure l'incohérence de nos gouvernants, influencés par l'humanisme et d'autres courants de notre temps. Et dans cette incohérence, nous avons évoqué la démission des parents. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Parce que nous devons aussi reconnaître que c'est un fait. Et je relevais cette citation intéressante, toute simple, mais combien éloquente. Si les parents accordaient à l'éducation de leurs enfants autant de soins qu'à leurs animaux domestiques ou à leurs fleurs, la situation serait bien différente. Alors nous l'avons remarqué, ce type d'attitude et de stratégie n'est pas nouveau. Il ne remonte même pas à ce qui s'est passé avant la dernière guerre. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 10, dans le cadre de cette confrontation entre le pharaon égyptien et Moïse et Aaron, choisi par Dieu pour conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte, au chapitre 10, dans cette difficile confrontation, lorsque Moïse et Aaron plaident de manière à ce que les Juifs puissent aller à 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, Il est dit au verset 8 du chapitre 10, on fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron, « Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront ?» Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Et Pharaon leur dit, « Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. » Et puis il se reprend. Il trouve que sa concession est allée trop loin. « Non, 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 allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé, et on les chassa de la présence de Pharaon. » Un tel texte montre combien Satan connaît l'importance de l'enfant et fait absolument tout pour essayer de le modeler à sa guise. Il fait tout pour que l'enfant échappe à une saine influence familiale et à une saine influence spirituelle. Nous sommes engagés dans un conflit spirituel gigantesque, titanesque, cosmique actuellement. Et il faudrait que nous, disciples de Jésus-Christ, et j'évoque ceux et celles d'entre nous qui vraiment connaissent Jésus-Christ de manière personnelle, qui l'ont rencontré à travers sa parole, il faudrait que nous le réalisions certainement bien davantage encore. La déstructuration de la famille, la désunion du couple, le pax maintenant, ce pacte civil de solidarité, le divorce, sont autant d'atteintes profondes à l'enfant et de perturbations dans son éducation et dans son avenir d'adulte. Et nous ne devons pas croire ceux qui nous disent de plus en plus du matin au soir, et nous y reviendrons, que cette désorganisation de la société, de la famille, et cette soi-disant restructuration n'ont pas d'effet néfaste sur l'enfant. Des livres sont écrits entièrement pour essayer de se tranquilliser la conscience et de nous faire croire que, après tout, ça ne se passe pas si mal que ça. Mais au même moment, d'autres auteurs, sans être d'authentiques croyants, ont suffisamment d'honnêteté pour dire les dégâts innombrables que provoque cette désintégration de la famille actuelle. Nous venons d'évoquer quelques versets de la Bible et qui remontent loin dans l'histoire, disons aux alentours du 15e siècle, 16e siècle même, avant Jésus-Christ. La Bible donne-t-elle suffisamment de détails sur cette question de l'éducation des enfants? Voilà une question importante. Et peut-être vais-je vous surprendre en vous disant que, apparemment, la Bible n'est pas du tout généreuse en la matière. Ce qui pourrait vous faire dire, mais alors pourquoi allez-vous consacrer tant de temps à vous appuyer sur les Écritures pour évoquer un tel sujet? Et en effet, sur les 2755 versets que comptent simplement les Épîtres du Nouveau Testament, si je vous disais que une dizaine seulement traite directement de l'éducation des enfants, et encore, je suis généreux. En fait, je devrais m'arrêter aux quatre premiers versets du chapitre 6 d'Éphésiens, à deux versets dans Colossiens 3, les versets 20 et 21, J'y ai ajouté, pour arriver quand même à un nombre, passer le cap des chiffres pour entrer dans celui des nombres, à deux chiffres donc, en y ajoutant Hébreux chapitre 12, où vous avez quelques versets qui, tout en traitant de la pédagogie de la croissance chrétienne, de la correction du disciple de Jésus-Christ dans sa croissance, utilise l'exemple des relations entre le père et l'enfant pour expliquer cette pédagogie. Donc il y a là un enseignement, mais qui est tout indirect. Donc, n'essayons pas de trouver dans le Nouveau Testament quantité de versets extrêmement précis. Vous remarquez, il y en a directement en fait moins de 10. Mais il faut nous souvenir que la Bible énonce d'abord des principes fondamentaux et ne fournit pas une réponse ou un conseil pour chaque situation. La Bible n'est pas un dictionnaire. Et c'est là que, par exemple, les relations de Dieu avec le peuple d'Israël, la pédagogie divine pour éduquer son peuple, Israël, qui va passer du stade de la naissance en tant que peuple jusqu'à l'âge adulte, avec toutes les crises que peut connaître un peuple en plein développement, en pleine croissance, en pleine structuration, que d'enseignements qui sont applicables à la pédagogie dans l'éducation des enfants. D'ailleurs, nous avons un indice qui va dans ce sens, simplement dans Deutéronome au chapitre 8, lorsque, évoquant les 40 ans au désert, et au verset 5, reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Il y a ici et là dans les textes des indications qui doivent orienter notre approche des textes bibliques, nous amener à être attentifs au parallèle à établir entre la manière dont Dieu éduque le peuple d'Israël et dont nous avons à éduquer nos enfants. Et puis il y a les péripéties familiales. Dans les nombreuses biographies de personnages bibliques, nous allons en évoquer un, je pense, dans un instant, dans le premier livre de Samuel, que d'enseignements. Simplement, dans les tout premiers chapitres de ce premier livre de Samuel, concernant cette approche de la famille, et non seulement de la vie conjugale, mais aussi de l'éducation des enfants. Le livre des Proverbes, dans lequel figure 26 fois le mot « père » et 13 fois le mot « mère », et puis Dieu le Père, dans ses rapports d'éducateur avec le croyant de la Nouvelle Alliance. Il est intéressant de constater que si Dieu est appelé « père » 14 fois dans l'Ancien Testament, non pas un père géniteur, un père qui participe à la naissance d'une personne, mais en tant que créateur, et ensuite en tant qu'éducateur, c'est ainsi que Dieu nous est présenté comme père dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ce titre de père va apparaître 228 fois. dont plus de 100 fois dans l'évangile de Jean. Et nous avons là aussi beaucoup à apprendre. Dans nos relations avec nos enfants, de la relation de Dieu en tant que Père avec nous. Et c'est vrai que tout parent qui connaît Jésus-Christ et qui éduque des enfants, plus il avance dans cette redoutable tâche, comprend de mieux en mieux la beauté du caractère de Dieu dans les rapports de ce Dieu-Père avec lui. Combien de fois ai-je dit, et encore tout récemment, dans un entretien avec un couple en difficulté, combien j'étais séduit, en quelque sorte, par la beauté du caractère de Dieu en tant que Père, et combien nos propres difficultés dans notre service d'éducation de nos enfants nous avaient ouvert les yeux sur la patience de Dieu, sur l'esprit pédagogue de Dieu, ce Dieu qui se répète, ce Dieu qui corrige continuellement, ce Dieu qui sait tellement bien former chacun de ses enfants dans leur croissance pour les amener à une vie de disciple adulte. Et c'est pourquoi, j'ose le dire ici au passage ce soir, ce que nous partageons concernant l'éducation des enfants, et nous l'avions déjà dit concernant l'harmonie conjugale, n'est pas uniquement destiné aux parents. Parce que je suis persuadé que certains d'entre nous ont pu se dire, écoutez, cet enseignement durant ce week-end et le week-end suivant, il n'est pas pour nous, l'éducation des enfants. En quoi est-ce que ça nous concerne? Nous n'en avons pas, nous n'en avons plus, nous avons fini, etc., n'est-ce pas? Alors que précisément, derrière ce que nous allons découvrir dans l'éducation des enfants, à partir de l'exemple de Dieu, se cache quantité d'enseignements qui nous concernent, quel que soit notre statut, dans nos rapports avec Dieu, notre Père, nous qui sommes ses enfants. Faut-il dire ici, après ce que je viens de souligner sur la manière dont l'enseignement concernant l'éducation des enfants et parcourt les Écritures de manière diffuse, on peut le voir dans ces grands principes tout au long des Écritures, est-ce que cela ne signifie pas nécessité de beaucoup mieux connaître les Écritures? Si nous avons une lecture fantasque, fantaisiste, épisodique, amateuriste des Écritures, si nous la lisons quand nous en avons envie, et si nous passons d'un texte à l'autre sans souci d'une lecture harmonieuse qui englobe la totalité des Écritures, il est évident que nous n'allons pas saisir la cohérence de la pédagogie de Dieu. Nous n'allons pas voir ces grands principes. Et donc, nous n'allons pas être influencés dans notre pédagogie, dans nos relations avec nos enfants. Et je voudrais que, à la lumière de ce que nous partageons durant ce week-end et les suivants, nous ayons à cœur, beaucoup plus peut-être que nous l'avons fait jusqu'ici, de donner à la parole de Dieu, dans sa totalité, la place qui lui revient. Importance d'être imprégné des Écritures pour pouvoir être influencé par cette pédagogie de Dieu dans l'éducation de nos enfants. Alors, en conclusion à ces pensées d'introduction générale au sujet, nous disons bien entendu que l'éducation des enfants, nous le redisons, est une tâche difficile. Bien des parents sont troublés par tous les courants contradictoires et subissent une forte influence d'un certain nombre de grandes théories psychologiques. Et vous savez combien la psychologie occupe une place prépondérante, de plus en plus dominante, absolument partout. Elle imprègne. Et disons-le, il n'y a pas que du mauvais, mais il n'est pas toujours facile de séparer la paille du grain, surtout si nous n'avons pas une solide santé spirituelle, si nous n'avons pas une bonne connaissance des Écritures. Nous risquons fort de nous laisser imprégner à notre tour de certains concepts destructeurs dans l'éducation des enfants, et on les voit, ces concepts destructeurs, trop souvent à l'œuvre maintenant dans les vies de familles chrétiennes où père et mère sont convertis à Jésus-Christ, mais attachent beaucoup plus d'importance à ce que disent certaines écoles psychologiques qu'à ce que disent les Saintes Écritures. Il me souvient, c'était en janvier 1986, lors d'un séjour d'un mois dans un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest, m'être assis à la table d'une famille missionnaire anglophone pour un repas, et pendant que nous bavardions, ou même assez tôt dans l'entretien, il devait y avoir 4 ou 6 enfants dans cette famille, j'avais été impressionné en entendant le père me dire que, avant de se marier, il avait une quantité industrielle de théories concernant l'éducation des enfants. C'est aussi ce que Paul Claudel a dit, rien de tel qu'un célibataire pour avoir des théories sur les enfants et sur l'éducation des enfants. Mais lui, ce missionnaire, d'ajouter, maintenant que je suis marié, que j'ai des enfants, je n'ai plus aucune théorie concernant leur éducation. Et cela m'a beaucoup inquiété. D'ailleurs, la démonstration de l'absence de principe était évidente à la table où j'ai été invité. Donc beaucoup, même des croyants, parfois ne savent plus très bien par quel bout prendre le problème, tellement il y a de courants contradictoires, de courants changeants, parce que ce qui était valable l'année dernière comme grand principe d'éducation est détruit très rapidement l'année suivante, les écoles s'affrontent, etc. La famille est la première école de la vie sociale et reste indispensable au développement harmonieux des jeunes. Et l'auteur qui a dit ceci a ajouté ceci: les statistiques des sociologues montrent que la dissociation du foyer intervient dans 80% des cas de délinquance juvénile. En dehors de celle-ci, d'autres déficiences produites par cette même cause peuvent surgir: inadaptation, dyslexie, inhibition sexuelle, névrose, etc. Que de dégâts, que de dégâts au niveau du foyer, et qui se traduisent par des désordres terribles au niveau des enfants. Au cours de cette semaine, nous avons accueilli chez nous un couple de jeunes mariés qui ne sont pas du tout de la région, qui ont fait d'ailleurs pas mal de centaines de kilomètres pour venir chez nous après m'avoir adressé un SOS, mariés depuis 2 ans, avec une petite fille de 17 mois, je crois, et qui venait de se séparer. Tous les deux connaissant Jésus-Christ, et qui venaient de se séparer, et qui vivaient les terribles angoisses liées à la fois à la séparation, mais aussi à toutes les répercussions qu'ils réalisaient déjà à l'avance pour la vie de leur petite fille. Et nous avons donc passé une grande partie des journées de cette semaine avec eux pour servir à la fois de médiateurs dans leurs conflits. Ils ont accepté de venir tous les deux ensemble. Et ce qui m'a beaucoup impressionné dans le partage pour les aider, c'est d'entendre leur histoire à chacun. L'histoire de cette jeune épouse et l'histoire de son mari. Et de voir combien leur propre cadre d'éducation, leur propre enfance, leur propre relation, type de relation avec leurs parents, le type d'éducation religieuse ou non qu'ils avaient reçu, avait été perturbateur jusque dans leur vie adulte, et c'était ces perturbations liées à tout leur passé et qui n'étaient pas réglées, n'est-ce pas, qui les entraînaient dans une situation conflictuelle grave entre eux. Ils avaient besoin d'abord de faire le point dans leur propre vie par rapport à leur passé pour pouvoir apprendre à vivre ensemble une vie harmonieuse et pour pouvoir ensemble alors travailler de manière cohérente à l'éducation de leur premier enfant. Donc nous l'avons dit, nous pouvons comprendre pourquoi Satan s'acharne sur la famille, pourquoi il s'efforce de la ruiner, de la démembrer, de la discréditer. Il sait que de cette manière, tout le monde souffre. La société, l'Église, et tout le monde souffre en commençant par les enfants. Et c'est à nous, mes bien-aimés, de relever le défi avec le secours tout-puissant de la grâce de Dieu. Et c'est ici que j'aimerais ouvrir, nous y reviendrons demain matin, un premier grand chapitre essentiel que j'intitulerai « Éduquer par l'exemple ». Éduquer par l'exemple. Un croyant, professeur d'université, a écrit ceci: « Les parents ne peuvent espérer réussir l'éducation des enfants, c'est-à-dire en faire des hommes et des femmes équilibrés et épanouis, que si leurs relations au sein du couple sont saines et harmonieuses. Ceci est absolument fondamental. L'éducation des enfants commence par celle des parents. » Et c'est là que j'aimerais que, en terminant notre réflexion, notre première réflexion ce soir, nous revenions à ce texte que nous avons lu ensemble dans le premier livre de Samuel au chapitre 1er. Parce qu'il est intéressant. Nous allons, dans 1 Samuel chapitre 1er, passer en revue les principaux personnages. Et simplement faire quelques réflexions. Nous n'allons pas développer toutes les leçons contenues dans ce premier chapitre, mais celles qui vont dans la direction de notre réflexion générale sur la famille et l'éducation des enfants. Le premier personnage qui nous est présenté est donc un certain Elkana au verset premier. Elkana, qui était un ecclésiastique, dirions-nous aujourd'hui, un lévite. Il appartenait à une grande famille lévite, et à l'intérieur de cette grande famille de Kehath, il faisait partie de la famille de Coré. Vous avez, pour ceux qui connaissent la Bible, lu des psaumes concernant les fils de Coré, également la révolte de la famille de Coré dans le livre des Nombres. Et c'était une famille intéressante, c'était notamment une famille intéressante pour un chef de chorale. Coré, chorale, ça va bien ensemble pour le retenir, puisque donc Elkana avait derrière lui toute une tradition de chantres et de directeurs de chorale et de grands musiciens. Je suppose que dans la situation qu'il vivait, comme nous allons le voir, il devait faire quelques fausses notes à quelque part, parce qu'il était tiraillé. Il avait deux femmes et des problèmes. Il avait deux femmes et des problèmes. Et hélas, en disant simplement cela, je pense à des millions de nos concitoyens qui peuvent s'identifier sans aucune difficulté à Elkanah. Deux femmes et des problèmes. Deux femmes dans une maison et les problèmes commencent. Au point que les Chinois, dans leurs idéogrammes, très nombreux, vous savez, la langue chinoise, cette langue quasi dessinée, les Chinois exprimaient la paix par un idéogramme montrant une seule femme sous un toit. Une seule femme. Elkanah était un homme tiraillé. Tiraillé par une situation boiteuse. Comme tous ceux qui vivent ce genre de situation polygame. Alors certes, nous sommes des gens tellement bien éduqués et chics, paraît-il, dans nos pays industrialisés, que nous nous refusons à utiliser le terme polygamie pour évoquer notre style de vie. Mais désolé, l'Europe est devenue largement polygame et polyandre, puisque polyandre est l'équivalent de polygame dans l'autre sens, lorsqu'une femme butine du côté de plusieurs hommes. Situation boiteuse, avec une préférence évidente pour Anne. Mais enfin, il y avait l'autre. Ce qui m'amène simplement à dire que vivre hors du plan de Dieu est de toute évidence dans les Écritures, dans la Bible, le plan de Dieu est pour la monogamie, et nous l'avons dit dans notre enseignement sur l'harmonie conjugale, c'est certainement la Bible qui contient l'hymne le plus merveilleux à la monogamie dans le Cantique des Cantiques. L'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme. Et pour ceux qui pourraient croire que Dieu apprécie la polygamie qui figure dans l'Ancien Testament, ben il lui suffira de se pencher sur la vie de tous ceux dont la biographie nous est offerte dans l'Ancien Testament et qui ont été polygames. Le premier d'entre eux s'appelle Lémec. Dès le début de la Genèse, au chapitre 4 et verset 23, et le premier polygame, Lémec, a aussi été un meurtrier. Genèse 4, verset 23. Nous pourrions évoquer le patriarche Abraham, qui un jour, dans son itinéraire, au bout de 10 années de stérilité de sa femme Sarah, a donc eu recours aux lois de son époque, qui ressemblaient étrangement à certaines lois qu'on nous ponte aujourd'hui, et donc qui est allé vers la servante, Agar, et vous savez que le résultat, Ismaël, est encore aujourd'hui un problème douloureux qui nous occupe pratiquement tous les jours aux informations télévisés, radiodiffusés et autres problèmes d'Israël et du monde arabe. Nous pourrions évoquer Jacob avec Léa et Rachel et certains chapitres de la Genèse qui nous font tourner la tête dans la complexité liée au fait d'avoir ces deux femmes et cette compétition au niveau des enfants. Vous avez des chapitres très très impressionnants à ce sujet. Nous aurons l'occasion d'évoquer demain Salomon. Mais avant d'évoquer Salomon, faut-il parler de David, qui a été largement polygame lui aussi, et dont la vie n'aurait peut-être pas été aussi sombre pour, en tout cas, la dernière partie de sa vie, si l'adultère n'était pas intervenu, mais aussi les rivalités entre enfants issus du même père, mais d'une mère différente. Que de lutte au sein du harem royal du temple de notre bien-aimé roi David. Que de drames dans la vie de ce célèbre personnage. Elkana avait donc deux femmes et des problèmes. Pénina avait des enfants. Et elle avait des problèmes. Elle avait des problèmes parce qu'elle était jalouse de l'amour d'Elkana pour sa rivale. Dévorée par la peur qu'Anne ait aussi des enfants, considérant en quelque sorte ses enfants comme son butin, son statut supérieur, ce qui aurait dû lui donner primauté dans le cœur d'Elkana. Et qui essaye donc de pousser Anne à la rébellion pour que la stérilité demeure, la stérilité étant envisagée comme un jugement de Dieu. S'il est dit que l'Éternel avait rendu Anne stérile, il n'est pas dit pour autant que Anne avait été rendue stérile par un jugement de Dieu. Dieu va intervenir. Dieu va exaucer de manière extraordinaire même. Mais dans la mentalité de Pénina, derrière la stérilité d'Anne se cache un jugement de Dieu. Et il faut que ce jugement de Dieu soit à tout prix maintenu. Et la seule manière pour que ce jugement de Dieu soit maintenu, c'est qu'elle pousse Anne à fauter, de manière à ce que Dieu continue à la châtier. Faut-il dire ce soir que le fait d'être marié et d'avoir des enfants ne nous donne pas un statut supérieur à celui ou celle qui ne le serait pas. Parce que c'est vrai, disons-le aussi, et là je m'adresse peut-être plus spécialement à l'Église de Jésus-Christ, il est facile, à quelque part au fond de nos cœurs, d'établir une sorte de hiérarchie de valeurs, de discrimination, et de considérer que le célibataire qui dure tant soit peu dans son célibat est quelqu'un d'un peu raté à quelque part. On peut très vite s'inscrire dans un système de pensée qui, à certains égards, ressemble étrangement à celui de Pénina à l'endroit de sa rivale Anne. Non à l'orgueil, non au mépris qui serait lié simplement au fait d'être marié et d'avoir des enfants. Et puis on arrive à Anne. Anne, elle, n'avait point d'enfants et elle avait des problèmes. Les trois personnages principaux de cette famille un peu particulière ont tous des problèmes. Malgré l'amour de son mari, et qui sait si son mari l'aimait, elle pouvait penser que le bonheur était dans le fait d'avoir des enfants. Et en fait, elle pouvait effectivement aussi se dire au fond d'elle-même, mais si je n'ai pas d'enfants, c'est que, à quelque part, je suis sous le jugement de Dieu, je suis sous un interdit, comment se fait-il que les autres aient pas moi, n'est-ce pas ? Alors, disons-le, le bonheur n'est pas dans le fait d'avoir ou de ne pas avoir. Le bonheur est dans le fait d'être au cœur de la volonté de Dieu et dans une juste attitude vis-à-vis des êtres, vis-à-vis notamment des êtres qui composent le foyer, le conjoint, les enfants, et bien sûr vis-à-vis des choses. Et c'est là que Elkana donne partiellement la réponse au problème. Et il nous est dit au verset 5 qu'Elkana donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Il donnait car il aimait. Et ça, cela sera une dominante dans notre approche de l'éducation des enfants. Il donnait car il aimait. Le bonheur n'est pas dans la possession. Le bonheur est dans le don de ce que l'on possède. À commencer, bien entendu, par soi-même. C'est là l'épanouissement de l'amour. Et Dieu a travaillé dans le cœur d'Anne pour la conduire à changer à quelque part de mentalité. Parce que je suis persuadé qu'à quelque part, pendant un certain temps, Anne voulait des enfants pour elle, par rapport à Pénina, dans cette relation de rivalité. Et Dieu va l'amener à un moment donné dans sa souffrance à changer sa mentalité et sa prière. Lorsqu'il est dit au verset 11, elle pria l'Éternel, versa des pleurs, elle fit un vœu en disant « Éternel des armées ». Donc Dieu souverain, elle fait appel à la souveraineté de Dieu qui est capable de tout. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le donnerai, c'est le même verbe, à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Seigneur, donne-moi pour toi. Voilà sa prière. Ne me donne pas pour moi, ne me donne pas d'abord par rapport à Pénina, ne me donne pas d'abord pour que je garde la meilleure cote dans le cœur de mon mari, donne-moi pour toi. Si tu me donnes, eh bien je te donne. Ce que tu vas me donner, celui ou celle que tu vas me donner, je vais te le donner. Mon bonheur sera d'avoir pour toi et non pour ma seule jouissance personnelle. C'est toi d'abord, Éternel, et moi ensuite. Et vous savez, c'est très frappant dans ces deux premiers chapitres du premier livre de Samuel. Parce que nous avons parallèlement et contradictoirement en opposition à la naissance et aux premières années de Samuel, les fils d'Élie, le souverain sacrificateur. Et quand on lit au chapitre 2 les versets 12 et suivants, ces fils d'Élie qui étaient des vauriens, des hommes pervers qui ne connaissaient point l'Éternel. Voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs, verset 13, à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite, dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, donc pour l'Éternel, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Voilà, voilà des jeunes gens qui avaient comme philosophie de vie, moi d'abord, Dieu ensuite. Et à côté d'eux, des parents qui, dans l'éducation de leurs enfants, avaient exactement le principe contraire. Toi d'abord, Seigneur. Cet enfant, il est pour toi. Tu nous l'as donné, il est pour toi. Et il valait la peine de le souligner parce que, y compris dans la famille aujourd'hui, et dans la relation entre les parents et les enfants, trop souvent, ce qui est le plus fort, c'est le besoin de confort personnel. Je veux bien des enfants, mais il ne faut surtout pas qu'ils me dérangent trop. C'est ma jouissance personnelle qui compte. C'est mon plaisir avant tout. Il ne faut pas que nos enfants nuisent à mon épanouissement. Et maintenant, si je peux avoir des enfants et les utiliser comme des petites poupées pour satisfaire mon besoin de pouponner, il y a tout un système de pensée égocentrique qui tourne autour de la relation à l'intérieur de la famille et de la relation avec les enfants. Si l'enfant touche à la qualité de ma vie professionnelle, c'est ma vie professionnelle qui doit être mise en avant. Si la relation avec les enfants touche au niveau financier, c'est la vie financière qui doit être mise en avant. Moi, d'abord. Et trop souvent, en réalité, même avec des fuites apparentes dans d'autres directions, l'enfant ensuite. Et voyez-vous ce qui est beau, et je termine avec cela, c'est ce verset 18, 1 Samuel 1:18. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, cette femme s'en alla, après avoir prié, après avoir pleuré, et son visage ne fut plus le même. Lorsqu'elle était dans la mentalité de Dieu, lorsqu'elle était dans la pensée de Dieu, lorsqu'elle avait dit de tout son cœur, « Seigneur, si tu me donnes, si tu nous donnes un enfant, cet enfant sera pour toi. » La paix vient dans son cœur. Dieu lui donne le témoignage intérieur qu'elle est conforme dans son raisonnement, dans son cœur, à Dieu dans son cœur de père. Donne-moi pour toi. Nous nous arrêtons là ce soir, nous ferons encore quelques réflexions en relation avec cette juste attitude fondamentale. Donne-moi, Seigneur, mais donne-moi pour toi. Nos enfants sont pour lui. Ils doivent être à lui. Quel magnifique programme, quel bel objectif. Et nous comprenons alors d'autant mieux que nous soyons attaqués aussi lorsque nous avons le désir de vivre dans la pensée de Dieu à cet égard.